Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h47, c'est l'heure des grands débats. Ce matin, Lydia Guirous, Elisabeth Lévy vous appellent au 0826-300-300 avec l'une des questions du jour. Les politiques ont-ils raison de se revendiquer du général de Gaulle? Pour l'instant, vous dites non à 92%.
Et ça, on verra ça juste après 9h. Hein. On va réagir après 9h. On reviendra avec Félix Mathieu dans le Factuel sur tous ces politiques, enfin en tout cas ceux qui se revendiquent du général de Gaulle et pour certains qui vont défiler à Colombey aujourd'hui ou alors qui vont lui rendre hommage en étant ailleurs également. Donc n'hésitez pas à vous nous appeler.
Continuez de commenter, bien sûr.
0826-300-300, vous nous appelez. Et puis l'autre sujet du jour, c'est Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir avec cette question que nous posons.
Hein. Oui, doit-il renforcer ses mesures sanitaires pour l'instant? Vous dites non aussi à 91%. Vous dites la Ve République a évolué si mal qu'aujourd'hui elle a perdu son âme. C'est devenu une monarchie où le peuple n'a plus rien à dire ni à revendiquer. Vivement la 6e, comme pouvait le dire Madame Lévy, justement, qui est avec nous, hein, Elisabeth, bien sûr. Jacqueline nous dit efforçons-nous à l'autodiscipline, les gestes barrières, l'hygiène du corps et des mains, ainsi qu'une bonne protection contre le froid et la vaccination est un plus.
Bon, voilà. On va voir ça avec Lydia Guirous, Elisabeth Lévy et Régina. Tout d'abord, qui nous appelle de Gironde. Bonjour, Régina.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis enchantée d'être avec vous. Ça fait longtemps que j'ai envie d'intervenir. Voilà. Par rapport au pass sanitaire, effectivement, si, comme je l'ai entendu dans certains médias, cela vise uniquement les personnes de plus de 65 ans, c'est une claque de plus à la démocratie et c'est très discriminatoire. Je suis désolée. On lutte contre la discrimination à tous les niveaux et c'est le gouvernement lui-même qui s'en sert. Cela voudrait dire effectivement que les personnes de plus de 65 ans n'auraient plus du tout accès aux loisirs si elles ne sont pas vaccinées. Loisirs et autres. Hein.
Si elles ne sont pas vaccinées, donc elles ne pourraient pas bénéficier du pass sanitaire, ce que vous voulez dire, hein, Régina.
Oui, de toute façon, c'est ça. Le pass sanitaire est fait pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui sont vaccinés, évidemment, l'ont automatiquement. Avec ce pass sanitaire, de toute façon, la démocratie a pris une claque de plus. Elle s'effrite de plus en plus avec ce gouvernement. On nous dit qu'il y a pire que nous dans ce domaine. Je parle de démocratie, bien sûr. Mais c'est justement pour ne pas en arriver là qu'il faut se battre. J'ai pour habitude de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de mon côté. Quant au vaccin, ce qui m'inquiète et qui devrait inquiéter plus de monde, c'est la périodicité tous les 6 mois. Ça veut dire qu'il n'est efficace que 6 mois à peine. Vous ne pensez pas que titiller ses défenses naturelles en permanence ne risque pas d'annihiler l'efficacité de nos défenses naturelles propres? Je n'ai pas la prétention d'être une scientifique, mais on a demandé aux médecins de réduire les antibiotiques pour cette même raison. Quelqu'un qui prend des laxatifs, par exemple, régulièrement, les intestins deviennent fainéants et ne jouent plus leur rôle. Pour les somnifères, c'est pareil. Ne risque-t-on pas tout simplement de rendre les petits soldats qui sont en nous et qui nous servent de défense naturelle fainéants et qui ne lutteraient plus contre les autres virus? J'ai peur que sur le long terme, cela soit encore plus grave que le Covid elle-même. Que la Covid elle-même.
Bon,
je serais plus favorable, vous voyez, à des traitements ponctuels et adaptés.
Oui, ah bah d'ailleurs, sur les traitements, ça arrive progressivement. Il y en a certains qui pourraient être mis au point. De toute manière, il faudra
tant
bien.
Mieux.
Oui, non, mais c'est vrai, tant mieux. Sauf que, attendez, Régina, du côté des traitements, ça peut être la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'un médicament, forcément, ça vous soigne à côté, mais de l'autre, c'est pas forcément toujours aussi très bon. Régina, il faut être logique jusqu'au bout. Hein.
Je suis d'accord avec vous. Sauf que un traitement, ça agit ponctuellement sur un laps de temps court,
c'est vrai.
Que le vaccin, tous les 6 mois, je suis désolée, vous titillez les défenses naturelles à longueur de temps.
Je suis d'accord avec vous aussi, Régina. Ben, vous voyez, on est d'accord, quoi, hein, pour certaines choses.
Voilà.
Bon, non, mais,
quand à vacciner les enfants, tout jeune, commencer à les vacciner tous les 6 mois, non, mais vous imaginez les dégâts que cela peut faire. Sans compter que les effets secondaires, vous savez, on ne les a pas vus encore. Et même si on les voit, certains médecins,
il y a des
parce
études.
Que je discute avec des médecins, n'osent même pas porter le P, excusez-moi l'expression, parce que c'est tellement compliqué administrativement de le faire qu'ils renoncent à le faire. Donc je pense que les effets secondaires sont bien plus importants que ce qu'on vient de dire dans les médias.
Bon, en tout cas, il y a quand même une étude qui a été faite qui était assez indépendante, là, qui montre que voilà, il y a des petits risques, hein, quand même, myocardite, péricardite. Bon, mais limité quand même, mais il peut y en avoir, notamment pour les raisons, les personnes les plus jeunes et les hommes de moins de 30 ans, notamment, c'était avec un certain vaccin Moderna. Merci, Regina, de votre témoignage. Chacun a la parole sur Sud Radio, il peut s'exprimer et exprimer son opinion. Parlons vrai sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Lydia Guirous, du chef de l'État Elisabeth Lévy, ce soir? Sans doute qu'il va aller vers un renforcement du sanitaire?
Moi, j'attends que ça s'arrête.
Oui, oui. Non, mais vous êtes comme beaucoup de Français, Elisabeth, c'est-à-dire que vous n'en pouvez plus, quoi, bien sûr.
Ah oui, non, mais moi, j'ai très peur des mesures qui ne servent à rien, genre masque. Masque dans la rue, etc. Et comme, évidemment, ils ne veulent plus arrêter l'économie, soyons raisonnables, il n'y a plus d'argent magique, et que par ailleurs, on est en année présidentielle, alors là, tant mieux, parce qu'ils ne veulent pas prendre non plus des mesures trop coercitives, j'ai peur qu'ils amusent la galerie avec une mesure du genre « on remet le masque dans la rue et tous les maires vont jouer la course à l'échalote ».
Exactement.
Et ça... Alors là, je dis que si on nous réimpose le masque dans la rue...
Non, mais il peut y avoir le masque dans des lieux où, plutôt fermés, quoi.
Dans les restaurants.
Voilà, dans des lieux fermés.
Mais c'est pas obligatoire dans les restaurants ?
Quand vous êtes assis en fait à table, vous enlevez votre masque.
Ça ne l'est plus, hein, ça peut le redevenir.
Vous mangez avec le masque, vous, Elisabeth, oui.
Non, mais je croyais qu'il fallait le mettre, par exemple, aujourd'hui,
oui,
on le met
vrai.
Dans les magasins.
Pour rentrer.
C'est vrai. Non, mais vous avez raison.
En tous les cas, moi, je suis très opposé au masque qui ne sert pas à grand-chose dans beaucoup de circonstances.
Attendez, mais il sert
autrement. Dans le métro,
oui.
Dans le métro, oui. Dans des lieux confinés où on reste longtemps avec les gens, oui. Mais tous
pas
les
le masque en tissu, hein. Il a été prouvé qu'il ne servait à rien.
Ah, en plus. Merci, Lydia.
Pourtant, on continue de le porter. Donc, celui-là, il faudrait quand même le signaler.
Les autres masques,
oui. Moi, j'en ai aussi. Il y a une étude
en Corée du Sud, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dit quand même que le masque, pas en tissu, mais les autres masques là, ils sont efficaces quand même à 90%.
Ah, les masques chirurgicaux. Et je pense que vous aussi, vous voyez beaucoup de personnes qui sont avec des masques en tissu. Ouais. Et il a été prouvé, alors au début, on nous a dit fabriquez-les, etc. Et beaucoup se sont mis à fabriquer, notamment dans les villes ateliers masques.
Non, mais c'est vrai, bien sûr.
On a des études du recul maintenant qui prouvent que ça ne sert à rien et je ne comprends pas.
Enfin, ça limite un peu, mais c'est...
Très peu, quand même. Et dans le métro ou ailleurs, quand je vois des gens qui sont encore avec des masques en tissu, ou certains professeurs d'ailleurs m'expliquaient qu'Éducation nationale leur avait distribué des masques en tissu alors qu'on sait que ça ne protège pas. Moi, j'attends notamment à l'école qu'on voit enfin ces masques transparents qui avait été promis, qui permettrait d'avoir un bon apprentissage, notamment pour les plus jeunes, qu'on puisse voir les expressions des professeurs. Et ces masques, je ne les vois toujours pas.
Non, il y en a très peu.
Appel à Jean-Michel Blanquer.
J'ai une question à vous poser.
Attendez, je ne suis pas médecin, mais allez-y. Oui.
Non, mais
tout le monde est épidémiologiste.
On voit bien que ce virus ne va pas s'arrêter complètement. Donc, pendant combien de temps? Parce que quand on parle des masques ou de toute autre mesure, on ne met jamais les coups en regard. C'est-à-dire... On ne dit jamais à quel point ça nous pourrit la vie, à quel point c'est pas bien pour les relations sociales, etc., etc. Non, mais quand on parle du vaccin, on parle des coûts et des bénéfices. Mais là, on ne parle toujours que des bénéfices éventuels. Donc moi, je me dis, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais maintenant qu'on est parti vraiment pour un jour sans fin parce qu'ils auront toujours la trouille.
Non.
Oui, je suis assez d'accord avec Elisabeth. Beaucoup de gens ont pris aussi l'habitude de ces gestes barrières.
Ça, c'est bien, les gestes barrières.
Non, moi, j'ai envie qu'on retrouve la bise.
Mais
serre la main, gestes barrières,
oui,
c'est affreux.
Oui, en cette période, c'est pas plus mal pour éviter de se
passer
sur les autres virus.
Une petite accolade, sans s'embrasser.
Pendant cette période un peu spéciale, moi, je pense souvent aux plus jeunes. Et j'ai ma fille qui a connu le confinement, elle avait 2 ans et demi, arrivée à l'école à la sortie du confinement. Un jour, elle me voit faire la bise à une maman et au papa d'une amie, et elle me dit mais pourquoi tu fais des bisous
elle n'a pas compris
et ils ne savent pas qu'on fait la bise. Il faut penser aussi aux plus jeunes, et j'ai l'impression qu'on va changer de façon de se saluer, de monde. Et c'est ça, c'est
étrange. Il y a eu un côté assez sympa avec le tchèque, mais bon,
maintenant faut que ça s'arrête, quoi.
Vous savez quoi,
vous
savez quoi, au Japon ils sont en train d'inventer des masques qui détectent les virus autour de vous. Ah bah non, mais les Japonais, ils sont toujours extrêmement vigilants.
Vous imaginez la vie sociale
spécial.
Ah bah non, mais là,
ça, c'est
spécial.
Avec ça,
écarte-toi, tu as un virus. Ouais. Oui. Allez, dans un instant, on vient plus sérieusement aussi sur tout, parce que là, on a un petit peu dérivé, mais c'était quand même sérieux, évidemment, bien sûr, ce sujet. On va revenir aussi sur la politique. Et puis, tout à l'heure aussi, sur les débats. Ce matin, c'est assez calme, hein, mais pourtant, il y a des débats et la société hystérisée.
La société hystérisée, Jonathan Curiel sera avec nous. C'est le directeur général des programmes d'M6, en tout cas, et il reviendra sur l'hystérisation des débats dans les médias, à la politique française et internationale, et en tout cas, vous voulez en parler et poser des questions, 0826 300 300, on revient avec vous dans quelques instants, tout de suite.
Merci.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est ça, c'est Patrick Roger qui nous parle hors antenne, il nous dit des bêtises, donc voilà, on dit des bêtises à l'antenne. Tout est de votre faute, Patrick, c'est pas la peine d'insister, c'est comme ça. Les grands débats du matin, la suite. Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy vous appellent 0826 300 300, on va vous reparler de cette question que l'on vous pose ce matin. Les politiques ont-ils raison de se revendiquer du général de Gaulle, puisque aujourd'hui, c'est le 9 novembre, la mort du général de Gaulle il y a plus de 50 ans, et bien, vous nous dites
51 ans,
exactement. Vous dites non à 92%, vous êtes plutôt très 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 contre. Jackie nous dit il suffit que Zemmour se revendique gaulliste pour qu'une partie de la droite se jette à Colombelles et Deux Églises. C'est qui mieux c'est surprenant. Les politiques qui se revendiquent de Gaulle devraient avoir honte. Ce n'est pas la même époque et surtout le général de Gaulle était droit et respectueux de ses concitoyens. Pas eux. Vous voulez nous en parler, on vous attend au standard à l'instant 0826 300 300.
Oui, ce sont tous des traîtres à la pensée gaulliste même. C'est de la Goa qui dit ça. Alors là, c'est cash en fait, direct. Alors, embouteillage donc à Colombelles et Deux Églises, ou ailleurs, parce que tout le monde ne va pas à Colombelles quand même, mais factuel avec vous, Félix Mathieu, sur ces candidats de tous bords, donc qui vont honorer la mémoire du général 51 ans après sa mort, Félix.
Non, oui, à commencer d'ailleurs par Jean Castex, ancien membre de LR, gaulliste social revendiqué. Il va déposer une gerbe sur la tombe du général aux alentours de 10h avant de participer à la cérémonie devant la Croix de Lorraine, mais c'est vrai qu'au-delà du Premier ministre, eh bien, la particularité cette année, c'est l'affluence du côté de ceux qui présentent effectivement leur candidature, un peu d'ailleurs comme De Gaulle ici en 65.
Que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt.
Bon, c'est vrai que le style a un petit peu
changé. Ah bah non, mais le style est toujours là, c'est-à-dire convaincant quand même, De Gaulle. Quoi. Ah oui, il y a beaucoup qui devraient s'en inspirer un peu, non?
C'est vrai. Ils vont être également du déplacement à Colombey, par exemple, les 5 candidats à l'investiture LR au lendemain de leur premier débat télévisé.
Attendez, ils vont tous les 5 là-bas?
Eh bah oui.
J'espère qu'ils prennent un petit bus, non?
Peut-être, on ne sait pas si
niveau carbone, c'est pas quand même génial. Quoi,
avec Christian Jacob, d'ailleurs, le président du parti, donc ils sont peut-être 6
donc il y a peut-être un
covoiturage.
Un train.
Ou le train, vous avez raison.
À gauche aussi, il y a deux personnalités de gauche, deux candidats de gauche qui en font un symbole de la lutte contre l'appropriation, disent-ils, d'Éric Zemmour, de la mémoire du général de Gaulle. Anne Hidalgo, qui assiste d'ailleurs déjà tous les ans en tant que maire de Paris et qui dit vouloir remettre l'histoire à sa place. Arnaud Montebourg, qui en appelle à tous les héritiers du Conseil national de la Résistance pour, je le cite, aller à Colombelles et Deux Églises et former un mur du silence pour faire taire Monsieur Zemmour. Voilà ce que dit Arnaud Montebourg. Éric Zemmour qui justement, lui, ne viendra pas à Colombelles et Deux Églises malgré les rumeurs qu'il disait prêt à déclarer sa candidature sur place. Enfin, Marine Le Pen, de son côté, sera à Bayeux, en Normandie, pour évoquer l'héritage du général de Gaulle sur les institutions, la souveraineté, l'unité du pays. Et puis, de son côté, Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste, préfère ironiser, je le cite, « À la veille de la présidentielle, tout le monde vient à Colombelles. L'année d'après, je suis tout seul. »
Lydia Guérousse, c'est une forme de course à l'échelle. Alors peut-être aussi parce qu'il y a la présidentielle, quoi, c'est ça?
Oui, c'est le symbole de Gaulle. Donc souvent, les hommes politiques, quand ils se sentent un petit peu ramés, en appellent aux plus grands, et notamment à De Gaulle, comme pour essayer de prendre vers eux un petit peu de cette aura. Je ne suis pas certaine que ce soit l'image que... Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la meilleure chose à faire. Ça fait un peu récupération. De Gaulle, c'est quand même une figure sacrée. Je veux dire, c'est la résistance, c'est la place de la France dans le monde, c'est l'autorité. Et,
Oui, mais c'est pour ça, il y en a...
Oui, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont véritablement à la hauteur de tout ça dans leur action, dans leur bilan. Et donc, ça fait un petit peu superficiel. Faut pas aller juste chercher les symboles. Faut aussi être à la hauteur de ces symboles-là. C'est ça que je voudrais dire.
Oui, oui. Elisabeth Lévy?
Oui, alors on pourrait faire une litanie de « imagine-t-on le général de Gaulle faire repentance »« imagine-t-on le général de Gaulle cautionner des réunions non mixtes racisées » enfin vous avez compris,
oui.
etc., etc. Donc c'est vrai, il y a une forme de récupération, mais moi j'irais quand même un peu au-delà parce que je voudrais parler de nous les Français, c'est-à-dire qu'il y a quand même une fascination hein, pour de Gaulle, pour Napoléon d'ailleurs aussi, mais alors Napoléon il a été un peu cancellé par le mouvement, par les nouveaux progressistes. Finalement, De Gaulle, pour tous les Français, si vous voulez, c'est le souvenir d'une période où la France était à la fois puissante et unie. Mais je dirais aussi, c'est peut-être nous tous qui ne sommes pas complètement à la hauteur de De Gaulle, parce que nous sommes devenus très individualistes, première préoccupation, tout le temps, c'est le pouvoir d'achat, et c'est dans le fond ce qui concerne nos vies quotidiennes. Et il y a quelque chose chez De Gaulle, vous avez prononcé un mot très important, Lydia, qui est une forme de sacralité, c'est-à-dire de considérer qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse, évidemment, pour De Gaulle, c'était la France, hein, c'était... c'était quand même cette histoire millénaire dans laquelle il s'inscrivait. Et je dirais que peut-être les politiques, effectivement, ont tous trahi plus ou moins la pensée gaulliste, mais tous les Français aussi, dans un sens. Parce que je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui à la hauteur de ce qu'était le général de Gaulle. Voilà. Oui, donc on ne peut pas simplement taper sur les politiques.
Oui. Et est-ce que vous ne croyez pas aussi que les Français ont envie de regarder devant et pas forcément toujours derrière, quoi, sur l'histoire? L'histoire, il y a un rapport à l'histoire qui est certes important, mais la préoccupation, c'est devant. Qu'est-ce que va devenir le pays,
sûr,
quoi.
Mais on ne construit rien sans oublier d'où on vient.
Oui,
on
ne
peut
bah
pas construire l'avenir sans oublier qu'on doit aussi cet avenir, notamment à des hommes comme De Gaulle et tant d'autres qui, à un moment, ont pris leurs affaires et sont partis à Londres parce qu'ils ont refusé le nazisme. Aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle l'islamisme, pour moi, et c'est la même chose que le nazisme. On peut regarder devant, on peut tout accepter, mais je pense qu'on doit aussi regarder derrière pour essayer d'aller non pas vers la résignation face à ça, mais aller vers une forme de résistance active aussi. Pas seulement en allant à la terrasse des cafés en disant « je suis un grand rebelle, un grand résistant, je bois une pinte de bière », c'est important, mais en étant dans une vraie résistance. Et ça, c'est évidemment tous les citoyens qui doivent le faire à leur échelle, mais aussi les politiques. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne partie de la classe politique aujourd'hui qui refuse d'être dans cette action de courage, de clairvoyance.
Et pourtant, ils se revendiquent justement du général de Gaulle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à appeler. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que la classe politique est dans cette action ou pas? Elisabeth Lévy aussi.
Bah non, mais moi je suis un peu d'accord avec Lydia. Je ne crois pas qu'on puisse. Je crois au contraire que notre problème aujourd'hui, c'est en permanence de congédier le passé. Si vous voulez, de passer notre temps à taper sur le passé de la France, criminel, colonialiste, raciste, esclavagiste, etc. etc. Et effectivement, il y avait chez De Gaulle une fierté de l'histoire de la France. Alors bien sûr, ça ne peut pas, l'histoire n'est pas notre seul code. Hein. Je ne sais plus quel révolutionnaire disait « l'histoire n'est pas notre code » pour dire, pour du passé, faisons table rase. L'histoire n'est pas notre seul code, mais elle est aussi notre code. Et aujourd'hui, il y a au contraire ce risque d'une rupture avec notre histoire, d'une détestation de l'histoire. Hein. Le passé, c'est très mal. C'est pour ça que quand je vois Madame Hidalgo à Colombey, je m'étrangle. Et un mot quand même sur ce qu'a dit Arnaud Montebourg. Si vous voulez, si c'est ça qu'il retient de l'héritage gaulliste, c'est qu'il faut faire taire les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, nous ne sommes pas bien partis.
Oui. Un mot peut-être aussi sur le débat, le premier débat des LR hier soir. Vous avez regardé un petit peu, Lydia Guérous.
Oui, j'ai regardé. J'ai trouvé au début que c'était assez... assez consensuel en quelque sorte, et puis après ils sont un peu réveillés. J'ai trouvé que notamment Éric Ciotti est plutôt sorti du lot. Il assume une position libérale, un régalien très fort. Il s'est pas laissé impressionner. Et les autres étaient chacun dans leur silo avec une volonté de rassemblement. Hein. Je trouvais que Barnier était quand même un peu au-dessus de la mêlée avec cette volonté de toujours rassembler. Il a cité Laurent Wauquiez, Retailleau, c'est un peu des messages subliminaux aux militants parce qu'on sait Retailleau sont très populaires auprès des militants LR. Et la cible à cette étape-là, en tout cas, c'est les militants LR puisque ce sont eux qui vont voter et qui vont désigner le candidat à l'élection présidentielle.
Je préfère l'avouer, j'avais une réunion de rédaction. J'ai le droit à un mauvais point, cher Patrick, je n'ai pas pu le regarder.
Il y en a trois autres, vous aurez une séance de rattrapage.
Est-ce qu'il a été question de Zemmour dans ce débat, ou est-ce que ça a été silence radio et que c'était l'ombre qui planait?
L'ombre planait un peu.
Bien sûr.
C'était ça. Et l'autre chose, est-ce qu'il y a eu un afflux d'inscriptions chez LR? Vous savez, très souvent, avant les primaires...
Il y avait eu il y a quelques jours, là, je ne sais pas,
il y a eu un afflux et ils ont fait le travail dans les fédérations, ils ont appelé tous les anciens.
Il y aurait 120 000
militants. Ouais, c'est une belle opération financière pour remonter. Ils étaient à 40 000 bulletins de vote qui se sont exprimés la dernière fois pour savoir si c'était un congrès ou une primaire. Et là, je crois qu'ils sont autour de 120 000.
Allez, 0826 300 sur De Gaulle. Donc,
c'est Marc.
C'est Marc qui veut réagir. Bonjour Marc.
Bonjour Marc.
Bonjour Sud Radio et vos émissions sont magnifiques. Bon, écoutez, puisque je peux parler en direct, j'ai simplement lu, je suis adhérent républicain depuis longtemps, j'ai fait médecine, j'ai arraché les drapeaux rouges à la fac, rue des Saint-Pères, peu importe. Non, mais c'est pas des blagues. Donc là, simplement, j'ai lu un papier de M. Michel Barnier, qui reste très modeste, il a débuté. Il a 70 ans, il est clairement. Il l'a dit, c'est clair, donc je dois remonter à la France, a priori. Donc il dit
attendez, on ne vous entend pas très bien.
Pour qu'on soit les larbins des États-Unis. Donc il aide pour en fait une Europe des nations, puisqu'il connaît bien l'Europe. Et voilà, donc il dit clairement, et je pense.
On n'entend pas très bien, Marc. Déplacez-vous, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si finalement vous êtes favorable ou pas à Michel Barnier, par exemple, quoi. Marc. Ah bah non, mais bon, une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Marc nous rappellera. On y reviendra, bien sûr, sur ces débats. Dans un instant, la société hystérisée à tous les niveaux. Évidemment dans les médias, mais ça se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, évidemment. Mm-hmm. Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que c'est vraiment le cas par rapport à... Parce que bien souvent, on a du mal à avoir des jumelles et à regarder en fait derrière sur ce qui se passait en fait autrefois. On verra ça avec Jonathan Curiel, directeur général adjoint des programmes du groupe M6, qui a écrit La société hystérisée aux éditions de l'Aube. Lydia Guirous, vous restez avec nous pendant quelques minutes. Elisabeth Lévy, si vous voulez, également.
Quelques minutes également. Mais ne me regardez pas quand vous dites société hystérisée, s'il vous plaît.
Je n'ai rien dit.
On regarde le plafond.
Je n'en pensais pas moins, c'est vrai. Je n'en pensais pas moins. Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19, la société hystérisée. Jonathan Curiel est avec nous. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint des programmes du groupe M6, en charge des magazines et des documentaires, et auteur de donc ce livre, La société hystérisée, aux éditions de l'Aube. Comment faire redescendre la température? Et si on se calmait? C'est la grande question du jour.
Oui, Paris contre Marseille, anti-Amazon, pro-Amazon,
les pro-nucléaires,
les anti-nucléaires, etc. Cela dit, Jonathan Curiel, ça a toujours plus ou moins existé. Les conversations de comptoir, c'était un petit peu ça aussi, quoi.
Mais l'hystérisation des débats, surtout.
Oui, c'est historique, et d'autant plus en France, on a cette culture du débat, de l'algarade, d'être dans le choc, dans le clash, etc. Ce qui est nouveau aujourd'hui, et ce que je décris dans le livre, c'est les réseaux sociaux, un certain emballement médiatique, et puis des causes de société beaucoup plus profondes. Les fractures sociales, la fracturation de l'espace public, l'émotion qui est aujourd'hui exacerbée dans le niveau politique et même ailleurs dans la société, et puis également une société qui manque un peu de mise en récit, ce que certains d'ailleurs candidats à la présidentielle essayent de faire, cette espèce de récit un peu mobilisateur pour nos sociétés qui nous manque un peu aujourd'hui.
On a du mal à mettre de la nuance en fait. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, parmi les solutions que vous préconisez à la fin, et on y reviendra tout à l'heure, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, dans un débat, il n'y a pas de nuance, quoi.
Aujourd'hui, on est dans des situations et dans des débats très binaires de manière générale. On le voit d'ailleurs même dans nos métiers, dans les médias, où on a un pour, un contre, un oui, un non. Et puis par ailleurs, dans ces débats un peu binaires, on est dans une espèce de culte de l'opinion où il faut avoir des opinions tout de suite sur tout, ce que d'ailleurs les sondages nous poussent à faire, à nous positionner sur tous les sujets.
En disant parfois beaucoup de bêtises, surtout.
En disant un peu tout n'importe quoi, et surtout en devant se positionner sur plein de sujets différents sur lesquels on n'a pas forcément un avis. Oui. Moi, si vous voulez, j'ai commencé à écrire ce bouquin parce qu'à un moment, je me disais, mais y a des sujets sur lesquels j'ai pas d'avis. Les éoliennes, je ne savais pas trop. Le nucléaire, on a tous un peu un avis, mais on n'est pas forcément tranché, clivé sur tous les sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette sensation de devoir se positionner sur tous les sujets. Et j'ajoute enfin qu'avec les réseaux, notamment, aujourd'hui, votre point de vue, il est identitaire. Bah oui. Donc c'est vous. Votre avis, c'est quand on s'attaque à votre opinion, on s'attaque d'une certaine manière à vous. Et du coup, ça génère de la conflictualité beaucoup plus qu'avant, pour répondre à votre première question. Ouais.
Mais est-ce que c'est pas parce que pendant très longtemps, on a été muselé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de chambre d'écho? On parlait effectivement dans le bar d'à côté. Aujourd'hui, on peut s'exprimer au plus grand nombre. Et l'anonymat a fait aussi beaucoup de dégâts, parce que forcément, quand on se cache derrière un pseudo, c'est plus facile de balancer. Mais est-ce que c'est parce que les Français n'ont pas besoin aussi de s'exprimer?
Si, et absolument, vous avez tout à fait raison. Donc il y a effectivement une nouvelle caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux gens de s'émanciper, de démocratiser la parole publique, des gens qui ne parlaient pas avant. Donc ça, c'est quand même le point positif. Et en même temps, aujourd'hui, il y a une caisse de résonance qui est beaucoup plus importante que par le passé. Donc effectivement, aujourd'hui, on a accès à des réseaux qui vous donnent la parole sur tous les sujets.
Oui, c'est ça. Mais ces réseaux sociaux, c'est eux véritablement qui sont l'accentuation, l'amplificateur de ça, de cette hystérisation.
Oui, c'est d'une certaine manière les catalyseurs de cette situation. Pour rejoindre ce que disait Cécile précédemment, l'anonymat est un levier très important, parce que quand vous êtes planqué derrière un écran, vous êtes plus violent, c'est vous facile. Pouvez chasser en meute, vous pouvez vous êtes caché. Parce que sur les réseaux, comme je disais, c'est très identitaire, c'est très performatif. Vous voulez agir, en fait, vous voulez choquer, vous voulez heurter. Vous dites ce que vous buvez, voyez, pensez. Donc du coup, vous voulez faire réagir l'autre.
Sans nuance, quoi, en fait.
Sans nuance.
Parce que si vous mettez de la nuance, ça ne portera pas.
En fait, sur les réseaux, d'une certaine manière, et dans la société aujourd'hui, on le voit même dans la campagne, il y a une prime à l'indignation et à la radicalité. Il y a une prime au clash. Mmh. Et les réseaux sociaux, ça c'est connu, c'est un peu tarte à la crème, tout le monde le dit, mais il faut le rappeler, il y a le système des bulles cognitives où vous ne recevez que des infos qui vous concernent, vous. Et donc qui vous confortent dans vos propres points de vue.
Et qui vous stimulent.
Et qui vous stimulent. Et à l'inverse, vous recevez des informations qui vous rebutent de manière outrancière parce qu'elles sont trop éloignées de votre propre point de vue. Et du coup, on crée une société avec des gens qui restent tous dans leur couloir de nage, dans leur silo, et qui ne se parlent pas. Et du coup, vous vous retrouvez avec des blocs très antagonistes.
Oui, mais Jonathan Curiel, si on revient 20 ans en arrière, il n'existait pas les réseaux sociaux, bien sûr. Il y avait beaucoup moins aussi de chaînes d'information. Il y avait, tout ça était moins présent. On a du mal à se souvenir. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait encore des débats? Vous citez Michel Pollack, mais c'était tout, finalement.
Et plus loin, l'affaire Dreyfus, quand même.
Oui, alors
mais l'affaire Dreyfus, il n'y avait pas les médias de la même manière. Non, c'était des journaux, mais ça n'infusait pas partout.
Je ne sais pas si vous avez vu, je me faisais la réflexion ce week-end, Illusion perdue. De Xavier Giannoli, le film, l'adaptation de Balzac qui est sur les écrans, vous vous rendez compte que c'était il y a 150 ans, les journaux c'était pareil. C'était la polémique, c'était on met la polémique sur le spectacle du soir pour qu'ensuite on en parle, et que ça crée des... C'était les premières situations d'hystérisation. Et puis dans l'histoire, on en a toujours eu, effectivement, l'affaire Dreyfus en France qui opposait des camps très opposés, le McCarthyisme aux États-Unis, quand vous avez les Didi dont on avait disparu il y a 25 ans, qui a connu des situation d'hystérisation ultime, pareil pour certains chanteurs, enfin, l'hystérisation a toujours été partout. Aujourd'hui,
ce qui est nouveau, c'est que l'accélération, peut-être, quoi.
Aujourd'hui, c'est l'accélération, c'est qu'on voit plus, qu'on entend plus ces situations, qu'elles ne sont plus bornées dans le temps. C'est pas une affaire, c'est pas l'affaire Dreyfus, c'est pas les Didi, c'est pas le conflit israélo-palestinien, c'est pas la guerre d'Algérie. L'hystérisation, elle est partout, tout le temps, et on la voit plus, on l'entend plus, du fait des médias et des réseaux sociaux. Les médias étant beaucoup plus nombreux que par le passé, se battant entre eux pour attirer l'attention.
Mais cette hystérisation, qui est parfois très violente, aujourd'hui elle se transforme en violence physique. Regardez, le président de la République a été giflé, vous en parlez, donc forcément on a passé un cap quand même.
Oui, on a passé un cap de deux manières. C'est-à-dire qu'effectivement la réalité virtuelle et la violence dans le monde virtuel peut se transformer en en violence physique parce qu'elle dégoupille des situations et en fait il n'y a plus de frontières entre l'espace public et l'espace privé. C'est le premier point. Et puis il y a un deuxième danger de cette société hystérisée que je décris, c'est le fait que plein de gens, et je pense parmi beaucoup dans vos auditeurs, en ont marre de tout ça, en ont ras le bol, et ils se disent bon bah nous tous les énervés, les excités qu'on voit à la télé, c'est pas notre sujet, nous on n'est pas du tout comme ça, on se barre à la campagne, on est chez nous, on se replie sur soi, sur sa maison, sur barbecue, on veut plus entendre, on est fatigué de cette polémique permanente. Et je suis convaincu que ça concerne beaucoup de gens.
Elisabeth Lévy, posez une question à ce sujet.
D'abord, si vous voulez, Jonathan Curiel, je vous dis ce que vous pensez sur les éoliennes, du mal bien sûr. Moi, je suis un peu. Je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, effectivement, il y a, disons, cette démocratisation, si vous voulez, du clash, parce que entre nous, à l'Assemblée, on en venait parfois aux mains. Et Cécile a eu raison de citer l'affaire Dreyfus. On connaît tous ce célèbre dessin de Carandache, ils en ont parlé, où la table est complètement dévastée. Donc je ne crois pas que ce soit nouveau l'antagonisme, et ça fait partie de la culture politique française. Mais en même temps, ce que je trouve justement le paradoxe, c'est que on assume beaucoup moins en réalité le conflit idéologique aujourd'hui. Regardez ce que nous dit Arnaud Montebourg à propos d'Éric Zemmour, c'est qu'il faut le faire taire. C'est-à-dire qu'il ne va pas au clash. Moi, je suis frappé dans le débat avec Zemmour, c'est que très peu de gens lui répondent par des arguments et qu'effectivement, on lui répond par des invectives. C'est ça qui me frappe. Parce que le conflit, si vous voulez, le problème, c'est que le conflit n'est peut-être plus médiatisé par la politique. Parce que c'est ça le rôle de la politique, si vous voulez, c'est de civiliser le conflit, de le représenter, de le symboliser. Vous voulez, de façon à ce que ça tourne pas à la guerre civile. Et aujourd'hui, la politique ne joue plus ce rôle. Et moi, je dirais, je ne sais pas s'il faut employer le terme d'hystérie que je trouve, désagréable, parce que après tout, moi j'aime. Non, mais le conflit, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas en avoir forcément peur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est, beaucoup plus bas de gamme et qu'il n'est pas médiatisé. Ça me frappe. Aujourd'hui, c'est quand on fait, par exemple, quand on compose des plateaux pour une émission de télévision, la réalité, c'est que c'est difficile de trouver des gens, souvent, qui acceptent l'affrontement. Aussi paradoxal que cela puisse vous sembler.
Oui. Jonathan Curiel.
Oui, alors, je ne dis pas du tout qu'il faut fuir le conflit, d'autant que le conflit, même d'un point de vue scientifique, les plus grandes théories scientifiques, ça a été montré par un philosophe appelé Karl Popper, ont avancé parce que justement, elles réfutaient, elles étaient en grand conflit avec les théories précédentes, et ça a donné lieu à des conflits majeurs dans l'histoire de la science. Donc, et là où je vous rejoins, par exemple sur Zemmour, moi je rêverais qu'aujourd'hui on vienne discuter avec Zemmour sur le terrain des idées, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a pas de l'idée, c'est qu'il faut pas confondre le conflit et le clash. Le clash, c'est pour faire de la polémique, pour faire des étincelles et attirer l'attention sur soi de la mauvaise manière. Venir sur le terrain des idées pour discuter du sens qu'on donne à cette campagne, de propositions concrètes, d'un programme un peu charpenté, bien sûr.
Mais il n'y a pas que les politiques, on en parlera dans quelques instants, les économies médiatiques, vous en parlez, Didier Raoult, forcément, on l'a fabriqué tous, autant qu'on est, et ça a créé forcément une animosité, des complots, enfin voilà, autour de son image.
Oui, Didier Raoult est assez symptomatique et emblématique de cette société qui est décrite dans le livre, c'est-à-dire que on est toujours dans le blanc-noir, pour-contre, donc on est, Didier Raoult, c'était l'incarnation de Marseille versus Paris, de la technocratie versus le peuple, des anti-vax versus des pro-vax. Donc il a charrié avec lui, avec sa personnalité, avec son look un peu particulier qui permettait d'attirer l'attention, il a permis de scinder le pays en deux et de toujours de se maintenir dans cette logique que je réfute dans le livre, qui est celle du pour et contre et du débat toujours binaire,
blanc,
sans aucune nuance au milieu.
Oui, bon, et quel est le rôle des médias? On va revoir ça avec vous dans un instant, Jonathan Curiel, et puis aller sur quelques solutions. Est-ce que c'est possible d'hystériser un petit peu moins la société, parce que évidemment, au bout du compte, on se dit mais comment ça va se terminer tout ça? D'autant qu'il y a un climat qui est quand même assez anxiogène globalement dans nos sociétés.
Et faut regarder des films de Noël, je vous assure, ça cartonne. Restez avec nous, on revient dans un instant, il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h33, dans 10 minutes, on va vous essayer de vous faire arrêter de fumer avec le mois sans tabac.
À la France à vos côtés, oui, c'est ça.
Exactement, et ouais. En attendant, c'est la société hystérisée. Jonathan Curiel est avec nous, directeur général adjoint des programmes d'M6 et auteur de ce livre aux éditions de l'Aube. Vous voulez nous appeler 0826-300-300, vous avez peut-être des méthodes, vous venez nous parler de cette hystérisation du débat. Mmh. On vous accueille bien entendu au standard.
Oui, Jonathan Curiel, vous tapez beaucoup sur les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, qui ont accéléré en fait ce mouvement. Et les médias classiques, c'est-à-dire les radios, les comme nous, évidemment, les télévisions, etc. Elles ont contribué ou pas parce qu'il y a une petite dizaine d'années en arrière, on se disait finalement, il ne se passe rien. Il y avait peu de débats sur les chaînes de télé, très peu, et radio.
Bah, les médias, les chaînes de télévision un peu plus classiques, la radio, etc., effectivement, ont contribué à à cette spectacularisation du débat, à cet appétit pour la polémique. C'est assez normal. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de médias et de canaux de diffusion qu'à l'époque. En 10 ans, tout cela a explosé sur les ondes, surtout à la télévision. Donc, du coup, il faut attirer l'attention. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un marché de l'attention avec. Des gens qui sont sollicités de toutes parts. Et du coup, si vous voulez un peu attirer l'œil et l'attention du téléspectateur sur votre média, il faut qu'il s'y passe quelque chose. Et donc, on a détourné d'une certaine manière un peu la polémique, le clash dans ce.
Oui,
dans
cet avec un paradoxe tout de même. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on dit on ne peut plus rien dire, en fait, aujourd'hui, avec la cancel culture qui s'introduit dans tout le pays. Donc, on ne peut plus critiquer les minorités, on ne peut plus se moquer de personne.
Et
c'est paradoxal quand même, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on va au clash, et puis de l'autre, il faudrait être tiède.
Parce que d'une certaine manière, on n'est pas assez sur le terrain des idées, on n'est pas assez sur le terrain du récit, et qu'on est sur l'écume, on est sur le clash et sur le buzz du jour, et que du coup, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le, on va jamais dans le dur sur le contenu des propositions, des idées, et dans ces cas-là, le conflit passe mieux. Le conflit est acceptable, pas être d'accord avec quelqu'un, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est pas de dire la nuance, c'est tiède, et on est dans la modération, dans le consensus mou, si vous me permettez, un peu chiant. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, assumons la conflictualité, assumons l'échange, assumons le débat, allons-y franchement, mais sur le terrain des idées, et pas sur le fait du jour qui est relayé partout sur les chaînes d'infos, sur les radios, et qui, du coup, ne débouche sur pas grand-chose, et qui frustre les gens parce qu'ils ont envie de parler de contenu, de programmes, de propositions, et qu'ils en ont pas pour leur argent.
Mais est-ce que le fait, par exemple, avant, c'était de l'entre-soi, hein, les journalistes parlaient aux journalistes, voilà, aujourd'hui, on ouvre, tous les radios ouvrent le micro aux auditeurs, aux téléspectateurs, on a un président qui va au contact des Français. Est-ce que ça, à un moment donné, ne va pas permettre d'apaiser le débat, une fois que tout le monde aura sorti un peu et déballé son mal-être? Est-ce que, du coup, ça ne va pas retomber en se disant, bah, finalement, on arrive à se parler?
Moi, je trouve ça très bien, ce que vous dites, de donner la parole aux gens, que les radios le fassent, de donner la parole aux auditeurs. Et je pense, pour en venir un peu aux voies de sortie et aux solutions qui peuvent être esquissées dans cette société un peu excitée, énervée, soumise à l'emballement collectif, c'est justement de donner la parole aux gens et de les impliquer plus dans la vie démocratique. Alors, il y a plein de solutions. On voit bien que les politiques tournent autour de cela. Il y a eu les conventions citoyennes, le grand débat de Macron post-gilets jaunes. Alors, il y a des ratés, des réussites. Sur le vaccin, on n'a pas très bien compris. Sur le climat, ça a été repris, mais on avait dit sans filtre et finalement, ça a été repris un peu différemment. Donc, mais on sent qu'on tourne autour de cette idée d'implication des citoyens, des gens dans la vie démocratique. C'est le cas, par exemple, en Suisse, où vous avez des votations populaires. Et j'étais à la radio suisse ce week-end. Il me disait que ça dégoupille beaucoup de situations sociales. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Vous mettez dans une votation populaire un sujet, ils vont voter sur le Covid, ils vont voter sur la justice, ils vont voter sur le statut des infirmiers à la fin du mois. Vous recevez un petit fascicule explicatif hyper clair sur ce sur quoi vous allez voter.
Donc c'est la fin de l'indifférence, en fait.
C'est la fin de l'indifférence, et puis vous allez au fond des sujets, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de philosophes politiques qui le disent, c'est-à-dire qu'il faut acter la polarisation de la société, elle est là. Voilà, les gens sont opposés aux États-Unis, démocrates, républicains ne se parlent plus. Voilà, la société s'écartèle de plus en plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faut impliquer les gens dans la vie publique, dans la vie démocratique. La votation en Suisse, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les politiques font en sorte de mettre au point une petite vidéo très claire avec le pour, le contre, ce sur quoi on va voter. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez ça chez nous, et il faut qu'on s'implique un peu plus dans la vie démocratique.
Avec du temps, parce que pour ça,
oui, bien sûr.
L'un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est on écrit écrit en fait très court, quoi, extrêmement court, donc on ne prend pas son temps, on réagit comme on respire.
On est soumis aux règles de l'immédiateté.
Et vous, ce que vous proposez, bah, c'est de prendre un petit peu plus de temps, quoi, et d'être dans un certain récit. Bah, quoi. Est-ce que les gens sont prêts à ça?
Bah, je pense que oui. Il y a une expérience très intéressante qui n'est pas arrivée en France, qui a été pratiquée par deux sociologues à Stanford, deux profs très réputés. Ouais. Avant la présidentielle de Trump, de Trump-Biden, 2020, ouais, ils ont rassemblé 500 personnes pendant un week-end dans une grande salle. C'est une initiative qui s'appelait America in One Room. Ils les ont fait débattre avec des experts, ils ont formé des ateliers sur les 26 propositions phares de la campagne, sur tous les thèmes majeurs, énergie, écologie, pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Ils se sont rendus compte au bout d'un week-end, parce que les gens s'étaient parlé entre eux, avaient parlé à des experts, et avaient vraiment interagi, que
le débat
s'était apaisé. Ils se rejoignaient sur 22 propositions sur 26.
Ouais.
Alors qu'en entrant dans la salle, ils ne s'adressaient pas la parole.
Oui, mais...
Preuve qu'on peut dépolariser, il faut faire parler les gens entre eux, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas.
Oui, mais il y a des problèmes de communauté et de bulle, c'est-à-dire qu'il y a des communautés aujourd'hui qui ne se rencontrent jamais.
Ben, c'est le problème.
C'est-à-dire que sur YouTube, il y a des gens qui n'y vont jamais, qui ne connaissent pas les stars d'aujourd'hui, qui ont des milliers ou des centaines de millions de vues et dont on n'a jamais entendu parler. Donc comment faire en sorte que ces gens se parlent? C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que qui regarde aujourd'hui la télévision, bah, y a toute une population qui ne la regarde plus, il y a une population qui ne va pas sur les réseaux sociaux, il y a une autre population qui est déconnectée. C'est difficile.
J'avoue que là, c'est la complication, c'est comment est-ce qu'on fait sortir chacun de son silo, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se reparlent? Je pense qu'il y a un certain nombre d'outils, peut-être, d'un point de vue politique, pour faire en sorte que les gens interagissent plus et se parlent un peu plus. Alors, je ne suis pas politique, donc je n'ai pas non plus toute la boîte à outils. Mais vous touchez du doigt, effectivement, le fait que, de par les bulles cognitives, les réseaux, notre vie sociale, aujourd'hui, les fractures sociales très importantes, on l'a vu quand même avec la Gilet jaune, il y a quand même deux France. Ça a été décrit par des sociologues, Christophe Guillouy, qui a décrit la France périphérique, la France urbaine, voilà. On est dans des mondes. Fourquet l'a décrit dans l'Archipel français, où on voit plein de petits îlots en France très émiettés et qui ne se parlent plus. La question, c'est comment ces différents blocs qui aujourd'hui sont antagonistes se reparlent.
Oui. Et demain, comment faire avec l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes américaines qui ne voient pas du tout les nuances qu'il peut y avoir dans une société française, quoi, peu leur importe. Et les médias, l'ensemble des médias en fait nationaux, on ne parle pas des médias européens parce que c'est un petit peu difficile, ont du mal à résister face à cela, quoi. Et demain, est-ce que les journalistes, est-ce que les médias traditionnels existeront encore face à ces grandes plateformes?
Bah, il faut le souhaiter, il faut faire en sorte que justement nos médias dits traditionnels continuent d'être une caisse de résonance pour les gens, la société, et qui répercute un certain nombre de nos problèmes et apporte des solutions.
Non, mais vous, en tant que professionnel, justement, des médias, vous n'avez pas cette crainte pour demain?
Sur le fait que les réseaux ou les plateformes...
Que les médias traditionnels disparaissent totalement et que tout ne passe que par les plateformes et les grands réseaux.
Et pour l'instant...
C'est un peu comme la vie politique qui a été complètement chamboulée ces dernières années.
Pour l'instant, j'ai pas cette sensation. Si vous voulez, on fait quand même. Il y a quand même des. Quand vous voyez les scores d'audience, pour être sur des faits concrets, vous avez quand même des chiffres très importants en faveur et de vos médias, de la radio et de la télévision. C'est quand même des médias fédérateurs. Ça rassemble les gens devant la télé. Je le dis dans mon livre. Pendant le confinement, les gens se sont rués sur la télé et sur la radio. Ils se sont rués sur les films patrimoniaux de Louis de Funès. Ils voulaient des programmes de partage, d'humour. Ils veulent se détendre. Vous pouvez vous évader à travers la télévision, aller voir des pays que vous ne connaissez pas. Donc je pense quand même la télévision, la radio, qui permet de faire parler les gens entre eux, ont quand même de beaux jours devant eux. Ça rassemble 25 millions de téléspectateurs par soir. Bien sûr que ça rassure, ça fait partie de votre jingle, de votre matinale. Bah, du coup, les gens le connaissent, ça les rassure tous les matins.
Ça, c'est l'effet Patrick Roger. Hein.
Yeah, mais
ça, c'est sûr. Il y a tout ce côté bonnes habitudes des médias qui font que on se retrouve et on partage. Et les gamins, le lendemain, à la cour de récréation, ils disent, t'as vu le Roi Lion? Même si le Roi Lion, on l'a vu 25 fois, on l'a vu la veille à la télévision et on peut en parler dans la cour de récréation, ou un vieux film patrimonial, on en parle à la machine à café au bureau. Donc.
Merci Jonathan Curiel. Donc La société hystérisée, c'est aux éditions de l'Aube, donc c'est un essai évidemment, constat d'aujourd'hui et puis des solutions au demain avec seuil de tolérance, est-ce que vous avez parlé de Karl Popper. C'est ça effectivement tout à l'heure.
Voilà, vous allez voir, vous allez vous y mettre au film de Noël, vous allez voir, ça va vous faire grand bien Patrick Roger. Restez avec nous. Merci beaucoup d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous. Dans quelques instants, on va vous faire
la
arrêter
France à vos
de,
côtés.
De fumer. Voilà, en oui. tout cas, on va vous, si vous donner
le
les clés.
Le combat de quelques personnes qui tentent voilà. d'arrêter de fumer et puis les dangers, évidemment, que ça représente si on continue l'addiction. On va voir ça dans un instant.
Un mois sans tabac, c'est le mois de novembre. À tout de suite.